Bienvenue sur En Aparté, je m'appelle Oriane Emery et je suis ravie de vous inviter dans les coulisses de la création artistique. Dans chaque épisode, je reçois un nouvel artiste de différents univers, le spectacle vivant, les arts plastiques, la littérature, la gastronomie, le cinéma, à parler en toute sincérité et décontraction de son quotidien, de ses inspirations, de ses galères comme de ses ambitions. Et j'en profite pour poser tout un tas de questions qui me taraudent sur le moment et qui, je l'espère, vous permettront à votre tour de découvrir des créatrices et créateurs inspirants avec un nouveau regard. Bonne écoute! Aujourd'hui est un grand jour, j'inaugure une nouvelle série d'épisodes sur En Aparté consacrée aux coulisses des métiers du cinéma. Suite au dernier épisode avec Jean Le Peudry, on a imaginé ensemble un assortiment d'épisodes donnant la parole au casting de son film Lokia. Pour ce premier épisode, on ouvre donc le bal avec Anna Tansik, une compositrice de musique de film basée à Los Angeles. On a parlé de son parcours et de son déclic pour sortir du monde du conseil et faire le métier de ses rêves dans la ville du cinéma. On a aussi percé tous les secrets de ce métier méconnu et j'ai découvert toutes les autres parties prenantes qui interviennent dans la préparation d'une musique de film, de série ou même de jeu vidéo. C'était juste passionnant, j'ai appris plein de choses et j'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira également. Bonne écoute!
Anna, je te propose de te présenter de la manière dont tu le souhaites et puis après, voilà, j'ai d'autres questions pour toi, mais je te propose de commencer et puis on tirera les fils de la discussion.
Ok, super. Alors, je m'appelle Anna Tansik, je suis compositeur de musique de film, j'habite à Los Angeles, je viens de Paris, où j'ai grandi, et j'ai déménagé à Los Angeles il y a 3 ans pour me lancer du coup à 100% dans la composition de musique de film. Avant ça, j'ai fait un parcours un peu plus classique académiquement, du coup... C'était une école d'ingénieur, Télécom Paris, où j'ai rencontré Jean Le Peudry, le réalisateur de Lokia, entre autres, qui est un de mes plus proches amis aujourd'hui. Et voilà, et j'ai fait 1 an en alternance aussi sur ma dernière année de master, enfin d'école d'ingé, dans une boîte de conseil. Et j'ai commencé à me dire que au quotidien, être 8 à 10 heures par jour dans un open space à faire des PowerPoints, c'était pas trop mon truc. J'ai pivoté, voilà, et j'ai tout laissé pour venir faire de la composition de musique de film à Los Angeles. Du coup, j'ai candidaté à un Master 2 de musique de film à l'Université de Californie du Sud, dans l'école de Taunton. Donc c'est ce qu'on appelle le Screen Scoring Master, donc j'ai fait ça pendant 1 an.
Ok.
En 2021, en plein Covid.
Courageux.
Les frontières étaient fermées, donc je pouvais pas avoir de visite de mes proches. Voilà, c'était du coup, ça a été vraiment l'immersion totale dans la musique, ce master et moi et rien d'autre pendant 1 an. Et ensuite, à la fin de ce master-là, j'ai été contactée par un grand compositeur de LA qui s'appelle Chris Lennertz, qui a fait pas mal de gros projets, de grosses séries et films pour Amazon Prime, Netflix, Disney+, etc. Dans les plus connus, The Boys, Lost in Space. On a fait un film de Noël là, récemment avec lui, Dashing Through the Snow. On a fait Les Feux d'Artifice pour Disneyland en janvier 2023. Donc j'ai travaillé pour lui dans son studio en tant que son assistante de musique pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Et donc là, je vis la vie de freelance, de compositeur freelance à Los Angeles. Et pour l'instant, je suis contente parce qu'il y a pas mal de projets tous les mois qui m'occupent bien. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et voilà où j'en suis.
Trop bien. Non, mais c'est parfait parce que j'avais des questions justement sur ton statut, etc. Mais j'aimerais quand même revenir sur ton expérience dans le conseil parce que ça nous fait un énorme point commun. Moi, j'ai passé, bon, du coup, plus de temps dans le conseil. Ouais. Maintenant, je suis totalement reconvertie dans autre chose. Maintenant, je fais des podcasts et du coaching.
Ouais.
Donc, rien à voir. Mais,
un pivot, toi aussi.
Voilà, un bon pivot. Toi, est-ce que tu peux me revenir sur ce déclencheur, en fait? À quel moment tu te dis « non, mais c'est pas possible » et parce que tu as quand même voilà, fait un parcours assez académique, classique, en école d'ingé, etc. au départ. À quel moment tu te dis « non, en fait, moi, je veux devenir artiste, en fait »
Ça a été, je pense que ça a été un long processus. En fait, je dis que j'ai grandi à Paris, mais en vérité, je suis arrivée à Paris à partir du collège, mais j'ai passé toute ma primaire en Allemagne parce que mon père était muté là-bas. Okay. Et du coup, j'ai commencé très jeune à jouer du violoncelle, en orchestre, à chanter dans le chœur de l'opéra, dans le chœur d'enfants, mais sur des productions du coup professionnelles de l'opéra de Bonn. J'étais à Bonn en Allemagne. Mm-hmm. Et en fait, quand je suis ensuite arrivée sur Paris, j'étais en horaire aménagé au conservatoire régional de Paris en violoncelle, donc j'avais cours le matin et toutes mes après-midi c'était musique intensive, donc travailler ton instrument plusieurs heures par jour, orchestre, solfège, chœur, musique de chambre, enfin bref, donc voilà, donc du coup j'ai eu un parcours musical quand même assez intense et j'ai beaucoup aimé ces années-là. Et ensuite, je suis arrivée au lycée et là, il a fallu choisir est-ce que je continuais dans cette voie ou est-ce que je faisais un parcours un peu plus classique. Et c'est vrai que je viens d'un milieu où mes parents aiment beaucoup la musique comme quelque chose qu'ils aiment bien... Enfin, ils aiment bien écouter dans leur temps libre de la musique, mais ils sont pas musiciens. Et du coup, personne, ni eux ni moi, ne m'imaginait faire carrière dans le monde musical. Mmh. Ça allait être quelque chose qui allait me rendre heureuse... pour mes loisirs, quoi. Donc, du coup, j'ai choisi de repasser dans un cursus normal, oui. Voilà, à partir du lycée, et de me concentrer sur mes études. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la musique a quand même commencé à beaucoup me manquer, donc je me rappelle de beaucoup d'heures perdues à passer sur le piano. J'avais commencé à apprendre le piano en cinquième aussi. À faire des impros et des compos qui sont enregistrés dans mon téléphone depuis, je sais pas, 2012, ou même avant.
Waouh. C'est collecteur, ça faut garder. Hein.
ouais, bah en plus, souvent, enfin j'ai toute une banque de données du coup de très vieux enregistrements et qui sont classés un peu par type d'émotion, de ce que ça m'évoque. Et parfois, quand il faut délivrer vite et que j'ai une panne d'inspiration ou que je suis pas sûre de dans quelle direction aller, je vais voir s'il n'y a pas un truc qui m'inspire là-dedans, et régulièrement ça fait des clics, donc bon, c'est marrant.
Ouais.
En fait, plus ça progressait à partir de la première et tout, je commençais à me dire « Oh, mais j'aimerais bien avoir un logiciel qui me permet de composer autrement que juste des enregistrements au piano dans mon téléphone ou d'avoir à écrire toute la partition à la main ». Et puis là, on est allé se renseigner à la FNAC, mes parents s'y connaissaient pas du tout. Ils essayaient de me vendre un logiciel Sibelius pour genre 900 balles. On était en mode, on cherchait peut-être un truc plus bas de gamme pour commencer. Et du coup, j'ai un peu abandonné cette idée-là, mais ça tournait toujours un peu au fond de ma tête que ce serait un truc que j'aimerais bien faire, dans lequel j'aimerais bien me lancer davantage si j'avais plus de temps, mais en même temps j'envisageais pas ça comme une carrière. Et puis je pense que ensuite les années prépa, ça a été vraiment le tunnel, et là j'essayais juste de me concentrer sur les concours et sur passer ces années, donc la musique était clairement au second plan. Et arrivée en école d'ingénieur, bah je me suis rendu compte que c'était super de faire de l'informatique et de faire des maths et de faire de la physique, et que ça m'intéressait bien, mais que ça me passionnait pas du tout. C'est pas le même type de créativité qui est en jeu quand on est ingénieur. C'est beaucoup de résolution de problèmes et de debug.
Ouais.
Et moi, j'avais besoin d'être aussi dans un espace avec un peu plus d'imaginaire. Et du coup, on avait un ou deux cours d'anthropologie, de lettres, de découverte, de la psychanalyse. Et je me régalais dans ces cours-là. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il va falloir songer après les études d'ingé à voir ce que je fais de ma vie. Et donc, bon, là, à ce stade, je commence à me rendre compte que la partie technique du métier m'intéressait moins. Donc, j'ai pivoté sur un master qui était organisé. C'était un double master avec l'école polytechnique qui était plus orienté sur des questions de management, de l'innovation, etc. pour essayer de basculer vers quelque chose d'un peu plus généraliste. Et même ça, en fait, c'était trop loin de ce dont j'avais besoin créativement pour me sentir contente. Du coup, pendant mes années d'école d'ingé, on a fait un tout premier court-métrage avec l'équipe des élèves de Télécom qui étaient dans l'association de vidéos et qui avaient décidé de faire un court-métrage pour le festival Nikon de 2018. Et là, ils savaient que moi j'allais bien faire de la musique. Ils m'ont dit oh, tu veux pas nous faire la bande son? J'avais jamais fait de bande son. Je suis allée voir l'assaut des DJ de Télécom. Ils m'ont craqué quelques logiciels de composition un peu plus classiques avec des ce qu'on appelle des samples, donc des sons de violon, de clarinette, enfin de tous les instruments qu'on veut, mais qu'on puisse que je puisse les jouer à partir du piano. Mais évidemment, comme c'était des samples craqués de très mauvaise qualité, ça sonnait pas très humain, voilà. Et du coup, je suis partie avec ça et j'ai fait ma première bande son. Là, je me suis régalée. Et après, j'ai expérimenté pendant un été de rester tout l'été sur Paris, dans ma petite chambre de télécom, et d'aller tous les jours dans le studio pour essayer de faire un gros morceau de musique épique que je composais à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que je pouvais faire ça des heures par jour sans m'ennuyer, sans me sentir frustrée. Enfin, j'étais vraiment happée. Et du coup, au fur et à mesure, en fait, ça s'est dessiné comme ça. Je commençais à me dire, bon, j'ai pas envie d'abandonner mes études d'ingénieur en cours de route parce que j'ai commencé. J'ai commencé, donc je veux terminer. Ce serait dommage de mettre toutes ces années à la poubelle. Et puis, c'est bien d'avoir quand même une sécurité.
Ouais, bien sûr.
Je trouve que c'est hyper libérateur de me dire que si vraiment, financièrement, ça marche pas au niveau artistique, que j'ai quand même un parcours qui me permet de retomber sur mes pattes. Donc ça, finalement, ça m'a donné... quelque part la force de tout quitter en me disant bon j'ai quand même pas rien d'autre
ouais.
j'ai un plan B quoi, voilà, même si je préférerais pas retomber sur ce plan B, mais j'ai un plan B et voilà. Et ça a été enfin au fur et à mesure ça s'est imposé un peu comme une évidence. Et du coup pendant ma dernière année dans le conseil, c'est des heures à être dans cet open space et à me dire que vraiment c'était long,
tu m'étonnes.
Et voilà. Et en fait, j'ai eu de la chance. Il y avait une fille dans mon master qui connaissait un compositeur, Raphaël Dargent, qui a fait le même master que moi quelques années auparavant et qui nous a mis en contact. Et ce Raphaël, qui est devenu un très bon ami aussi maintenant, a pris 4 heures de son temps, alors qu'il ne me connaissait pas, pour me passer un très long coup de fil et répondre à toutes mes questions sur son parcours. Et du coup, pendant ma dernière année à Télécom, il m'avait parlé du master... à USC, l'Université de Californie du Sud, et il m'avait dit « Ok, il faut que tu t'achètes un Mac avec, avec Logic, il faut que tu t'achètes tel micro, il faut que tu t'achètes tel sample. » Et voilà, il m'avait donné pas mal de clés de réponse de comment démarrer et candidater à ce truc. Et après, j'ai eu la chance d'être prise directement et du coup de pas avoir de temps mort. Enfin, il y a eu un petit temps mort parce que du coup, il y a eu le Covid, donc les ambassades ont fermé et du coup, le master qui devait débuter à l'automne 2020 a été décalé à début 2021. Donc pendant 6 mois, on savait pas trop si ça aurait lieu ou pas. Ils nous disaient qu'ils nous garderaient pas, enfin, que si c'était annulé, qu'on pouvait pas venir, il faudrait recandidater, qu'on reporterait pas notre place à l'année suivante. Donc, moi, je venais de me dire, mon rêve se réalise, je vais pouvoir aller étudier ça et faire ça. Et là, maintenant, on me dit que si j'arrive pas à arriver sur place, il faut que je recandidate et je recommence tout. Donc ça, c'était un peu stressant. Et finalement, ça s'est bien goupillé et j'ai réussi à venir. L'ambassade a rouvert en octobre ou en septembre. J'ai réussi à avoir un rendez-vous pour octobre. Et le truc commençait tout début janvier. Donc, c'était... un peu la croix et la bannière, on a fini par arriver à bon port. Donc voilà, ça a été une réflexion qui a éclos au fur et à mesure des années. Et c'est vrai que c'est un truc que je m'autorisais même pas à considérer, ce genre de carrière. Aussi, je pense, par ignorance, parce que quand j'étais plus jeune, pour moi, une carrière dans la musique, c'était quoi? C'était être instrumentiste professionnel, soit soliste, soit dans un orchestre classique, soit chef d'orchestre, soit prof de musique. Et j'avais pas réalisé que autour de l'image, du cinéma, des jeux vidéo, même des productions de danse, du théâtre, enfin de beaucoup de productions artistiques, en fait, bah, il y avait plein de gens dans les coulisses qui faisaient de la musique et qui travaillaient dans ce domaine. Et du coup, c'est aussi pour ça, je pense que j'ai pas directement étudié ça à la sortie du bac. J'avais aucune idée que ça existait, en fait. Voilà.
Bon, en tout cas, bravo pour ce parcours, c'est hyper inspirant, je trouve, et ça donne trop espoir de, voilà, même si on fait un parcours un peu classique au départ, des études pour se rassurer ses parents, rassurer tout le monde, c'est aussi possible de bifurquer et d'aller vers ses rêves, en fait.
Ouais.
J'adore.
Bah, merci.
Trop bien. Bah, ça me fait une bonne transition avec un peu une question que j'avais sur comment, en fait, ça se passe et comment... là, tu avais ton école, maintenant, tu es freelance. En fait, comment on se fait connaître en tant que compositeur et aussi comment ça se passe? Parce que j'imagine que, bon, il y a des choses que tu peux composer toute seule, mais j'ai vu que tu travaillais aussi avec des orchestres. Comment ça se passe, en fait? Est-ce que tu loues, entre guillemets, un orchestre ou, voilà, explique-nous un peu les coulisses de ce milieu-là et comment toi tu fais ton trou, quoi, tout simplement, dans le milieu.
Alors, ta question a plusieurs ramifications, parce que une partie de la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans les coulisses et comment tout ça est organisé, et quels sont les différents métiers attenants à être compositeur de musique de film, parce que évidemment qu'il n'y a pas juste le compositeur, il y a une énorme équipe derrière en général, et plus la production est grosse, plus l'équipe est grosse aussi, donc je vais rentrer là-dedans dans une seconde, en essayant de résumer un peu le truc. Et l'autre partie, c'est une partie sur la com et le réseau, voilà. Donc je vais d'abord commencer par la partie comment ça se passe pour faire éclore une bande-son pour un film, en tout cas sur des grosses productions. Et après, je viendrai à mon cas. Mais du coup, sur les grosses productions, et quand je travaillais pour Chris Lennert, lui, il est le compositeur principal. Donc ce qu'il fait, c'est que en général, le process, il commence par une grosse réunion avec la prod ou les réalisateurs. Et on regarde dans le film à quels endroits du film, donc pour quelles scènes on voudrait de la musique, quelles émotions on voudrait, etc. Donc il y a une grosse discussion, ça commence par ça.
Okay.
En général, à ce stade, le film est monté, il n'est pas toujours bloqué complètement, c'est-à-dire que parfois le montage évolue encore alors qu'on a commencé sur la musique, et du coup ça crée tout un tas de problématiques de ensuite, ah bah tiens, on a perdu une seconde là, on a gagné une seconde là, et on peut pas juste décaler la musique parce que la musique était synchronisée pile sur les cuts, et du coup il faut conformer les scènes, etc. Mais bon, ça c'est rentré un peu dans le détail du métier, mais du coup ça commence par cette conversation là. Et en général, sur les grosses productions, le montage a été fait par un monteur qui a utilisé ce qu'on appelle de la musique temporaire, qui a été ajoutée soit par le monteur lui-même, soit par ce qu'on appelle un éditeur musical, pour essayer de faire une sorte de simulation de quelles seraient les émotions ou le type de musique approprié pour les diverses scènes. Et du coup, en fonction des réalisateurs, ça peut être plutôt bloquant pour le compositeur, parce que certains réalisateurs commencent à avoir vraiment beaucoup entendu leur film avec cette musique temporaire, et du coup s'attendent à quelque chose d'un peu similaire, ce qui laisse pas beaucoup de place à essayer quelque chose de nouveau.
Ouais, je comprends.
Et en même temps, parfois, ils sont agréablement surpris, et parfois, par contre, ils ont ce qu'on appelle de la temp love, et là, ils ont vraiment beaucoup de mal à se décrocher de ça. Mais bon, donc du coup, cette conversation commence avec le réalisateur, le producteur et le compositeur, et on essaie de décider de ce qu'on va faire au niveau musique sur le film, et souvent en se basant sur la musique temporaire, et en essayant de dire, ok, bah, cette musique temporaire que t'as choisie là, est-ce qu'elle te convient, est-ce qu'elle te convient pas, qu'est-ce qui dedans te convient pas, est-ce que ça devrait commencer plus tôt, plus tard, on essaie de trouver les timings pour les différentes scènes, de quand la musique va rentrer, quand la musique va sortir, et globalement, quel va être son rôle dans la scène, est-ce que ça va être de soutenir tel personnage sur telle émotion, est-ce que ça va être au contraire de faire passer une émotion complètement différente de ce qu'on voit à l'écran, de donner un sous-texte, etc. Bon, bref. Donc, ça, discussion créative. Ensuite, le compositeur est rentré chez lui, et il commence, en général, à composer des thèmes, si jamais on a décidé avec le réalisateur qu'il allait avoir plusieurs thèmes en fonction des personnages ou des lieux. Bon, voilà. Certains réalisateurs aiment pas du tout les thèmes et aiment bien plutôt de la musique ambiante, donc là c'est encore un peu notre process, mais souvent il y a quand même un thème ou deux qui vont être repris au cours du film, et donc là le compositeur est chez lui, devant son ordi, avec son piano, et il a un espace logiciel avec ce qu'on appelle des samples, donc des échantillons, qui lui permettent de créer une maquette sonore dans son ordi de certains thèmes et de sa musique. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'instrumentiste, ça se passe sur l'ordinateur. Parfois, en fonction du niveau d'investissement du compositeur et du temps qu'il a accordé au projet, parfois, donc là c'était le cas de mon ancien chef, ils font des brouillons ou des maquettes qui sont quand même assez abouties, où on entend quand même les cordes, les cuivres, un peu tous les types d'instruments. Il y en a d'autres qui font juste un thème au piano et qui ensuite envoient ça à leur équipe et qui sont en mode débrouillez-vous. Donc ça dépend un peu du compositeur de base. Ensuite, souvent, dans l'équipe, en plus du compositeur, il y a des gens, souvent freelance, qui l'embauchent pour faire ce qu'on appelle de la musique additionnelle. C'est-à-dire toutes les scènes que lui, il n'a pas le temps de composer ou qui sont un peu moins importantes, il les délègue à des gens de son équipe, souvent en disant j'ai créé ces thèmes-là, ça c'est le thème des méchants, ça c'est le thème des gentils, ça c'est le thème de quand Machine est triste, et du coup il faut que tu réutilises ces thèmes et que tu le fasses un peu dans mon style de composition pour faire une bande son globale qui soit un peu harmonisée, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait 36 000 personnes.
Ouais, donc il y a un gros travail d'adaptation en fait quand tu travailles pour quelqu'un.
Oui, c'est ça. Il faut être très caméléon. Donc voilà. Et ensuite, en général, ça donne plusieurs tours de roue. L'écrivain additionnel fait un premier jet, le compositeur l'écoute, lui dit adapte ça, donc plusieurs versions, etc. De tours de roue déjà entre juste le compositeur et ses écrivains additionnels. Mmh. En même temps, dans son équipe, il a un éditeur musical, donc en général, pas celui qui a mis la musique temporaire, souvent un éditeur musical propre, qui est propre au compositeur, qui, lui, va essayer, à partir des bouts de musique qui ont été déjà créés par l'équipe, de voir où est-ce qu'il peut les replacer ailleurs dans le film, et éventuellement comment il peut les éditer pour que, peut-être cette scène, on n'ait même pas besoin de recomposer dessus, et que juste en adaptant un peu ce qui a déjà été fait, on gagne du temps. Donc ça, c'est l'éditeur musical, il s'occupe aussi souvent d'harmoniser les volumes, du coup plusieurs personnes envoient chacun leur scène et ensuite il faut que globalement le volume sonore de l'ensemble fonctionne bien, parce que parfois il y a des gens qui envoient des scènes qui sont beaucoup plus fortes en termes de volume que d'autres, il s'assure qu'on entend bien les dialogues, qu'on entend bien les effets spéciaux, il fait une balance globale avant de montrer la maquette au réal. Voilà. Et donc là ensuite on a plusieurs tours de roue avec le réal qui va commencer à dire ok bah j'aime bien ça, cette scène je l'approuve, cette scène je l'approuve pas pour telle et telle raison, donc là ça repart en révision. J'ai parlé des écrivains additionnels, mais il y a aussi certains compositeurs, comme c'était le cas de mon chef, qui emploient ce qu'on appelle des programmeurs. Donc là, c'est pour leur propre scène que eux, ils composent. Ils font une maquette qui sonne pas mal, mais ensuite, ils emploient des freelances qui, eux, donc ces programmeurs, s'occupent spécifiquement de faire en sorte que le résultat global sonne vraiment authentique. Donc eux, ils vont travailler sur le rendu pour faire en sorte que ce faux orchestre dans l'ordi, il sonne le plus réel possible, parce que en général, le réalisateur arrive à mieux se projeter quand il entend quelque chose qui va être proche du résultat final que quand il entend une maquette qui sonne pas très authentique. Et du coup, ça, c'est un métier à part entière aussi, de faire en sorte que la qualité de production soit chouette au moment où on monte la maquette et de faire fonctionner du coup ces samples.
Et ça, comment ça marche? Enfin, c'est peut-être... excuse-moi de te couper. Peut-être que c'est compliqué techniquement, hein, mais comment on fait pour rendre plus réaliste un truc enregistré sur ordi, quoi?
Alors, il y a plein de façons. En fait, déjà, il existe beaucoup de banques de samples différentes. Donc, parfois, quand on en met plusieurs les unes sur les autres et qu'on gère les différents volumes, ça donne un peu plus une impression de profondeur. Mmh. Après, il y a des outils de reverb, d'equalizer, enfin, qui permettent de faire ressortir certaines fréquences et pas d'autres, et qui font que parfois t'élimines un côté nasillard ou pas. Mmh. Après, il y a des petites molettes et des petites courbes de différents paramètres que tu peux dessiner, les principales étant la modulation et l'expression. Et en gros, ça permet de trigger de déclencher dans les samples différents niveaux d'interprétation. Donc souvent, les samples ont été enregistrés en plusieurs couches. C'est-à-dire, si j'enregistre un violon ou plusieurs violons, une section de violon, ils ont souvent enregistré la même note jouée pas très fort, donc piano, ensuite jouée moyen fort, mezzo forte, ensuite jouée très forte. Et du coup, de faire varier ce paramètre de modulation, ça fait varier l'interprétation. Et du coup, au lieu d'avoir j'appuie sur la touche et j'ai d'un coup, j'appuie sur la touche et je joue avec ma boulette et là, j'ai...
Ouais, d'accord.
Du coup, tu peux créer un peu une sorte de simulation de quelqu'un qui joue avec son archer et qui appuie pas toujours avec la même pression. Et du coup, il y a plein de...
Ah, c'est trop intéressant.
Voilà, il y a plein de petits détails comme ça et qui font que... À la fin, le résultat final de ta prod sonne mieux. Souvent, quand plus l'orchestre est gros aussi, plus même si tu travailles chaque instrument par lui-même, à la fin, le résultat final, c'est une grosse mélasse avec et du coup, après, t'essaies d'obtenir quelque chose où certaines choses ressortent mieux que d'autres. Si t'as trop de graves et que du coup c'est tout boueux, t'essaies de filtrer certaines fréquences pour qu'on entende mieux les percus graves et que peut-être que les contrebasses elles soient plus en arrière-plan, etc. Donc c'est du mix, c'est l'utilisation d'outils tech assez poussés pour essayer d'obtenir des rendus comme ça. Et c'est quelque chose qui est devenu vraiment très important dans le milieu. Parce que maintenant, sur beaucoup de séries et de films, souvent, il n'y a pas un budget pour enregistrer des instruments sur la totalité du score. Et donc, en fait, il y a une partie du score. Souvent, le score reste hybride. Il y a une partie du score qui reste juste générée sur ordi et programmée par des gens qui savent bien le programmer. Et qu'on réenregistre pas, ou on réenregistre juste un ou deux instruments en plus pour amener un peu de réalité, mais on laisse le faux orchestre en dessous,
ah ouais.
etc. Donc ça, c'est très très fréquent, même sur des grosses séries et tout.
Ça, c'est un gros secret, je trouve, de l'industrie du cinéma. Enfin, j'aurais jamais pensé, quoi, qu'y rajouter genre juste un ou deux instruments pour faire croire que tout était enregistré en vrai, enfin, pour ajouter du réalisme, etc.
Si, si.
Ça me fascine, c'est trop stylé.
Donc voilà, donc ça c'est ce qui se passe dans l'équipe du compositeur, sauf qu'ensuite du coup s'il y a la partie enregistrement et si du coup il y a assez de budget pour enregistrer un orchestre ou une band genre batterie, guitare, etc. Enfin, ou un chœur, ou enfin, quels que soient les instruments qu'on choisit d'enregistrer, il y a encore trois autres acteurs. En gros, il y a les orchestrateurs, donc eux, ils vont prendre la maquette du compositeur et ils vont en faire une partition pour tout l'orchestre. Et ils vont rajouter tout un tas de nuances, d'articulations pour les instrumentistes. Parfois, ils vont rajouter des trucs, c'est-à-dire que si, au départ, le brouillon du compositeur, il avait juste des violons et des cors, et qu'on se rend compte qu'on a aussi des clarinettes et des trompettes à notre disposition, ils vont rajouter... des voix pour eux, mais ils vont essayer de faire matcher le style pour que ça fonctionne toujours à peu près comme fonctionnait la démo. Une fois, j'ai dû faire une orchestration comme ça pour un collègue, et il avait dans sa maquette 8 clarinettes basses qui jouaient en même temps. Et dans l'orchestre, on avait une clarinette basse. Et donc, je me suis dit, OK, alors comment, avec cette clarinette basse, toute seule, j'arrive à recréer le son de 8 clarinettes basses. Donc, je l'ai mélangé avec un trombone basse et un basson, un contrebasson. Et voilà. Et du coup, on essaie de trouver une technique pour enregistrer quelque chose qui ressemble à la maquette, même si techniquement, du coup, dans l'orchestre, on n'a pas la même formation instrumentale. Donc ça, c'est aussi un peu le jeu de l'orchestrateur. Donc lui, il fait... Et souvent, c'est une team d'orchestrateurs en fonction des délais, parce qu'à ce stade, on est souvent une ou deux semaines avant la session d'enregistrement. Donc voilà. Pas beaucoup de temps pour faire les partitions de 1h30 de film. Voilà, ou de plusieurs épisodes de série. Donc en général, l'orchestrateur a aussi une équipe et il délègue et il gère sa tambouille dans son coin. Ensuite, ça va chez le copiste, et donc là, le copiste, il prend le conducteur, donc la partition intégrale qui a été faite par l'orchestrateur, et il en fait une partition par instrument. Donc les violons, sur leur partition, vont avoir que la partie violon, et les violoncelles, ils vont avoir que la partie violoncelle, etc. Et on n'a pas aujourd'hui de logiciel qui permet de juste extraire les différentes parties du conducteur sans que ça ressemble à n'importe quoi avec tout qui fonctionne bien. C'est-à-dire que souvent la partie du conducteur elle est en do. Il existe pas mal d'instruments qui sont transpositeurs et qui jouent des notes. Et c'est pas quand il joue une note qui est écrite sur la partition, la note qu'on entend, c'est pas la note qu'il joue. Enfin, bon voilà. Et donc du coup, il faut vérifier les transpositions, etc. Donc bon voilà, le copiste il fait cette partie-là.
Attends, mais avec l'IA, il n'y a rien qui existe pour faire ça. C'est un truc de ouf.
Il y a moyen d'extraire une sorte de version un peu moche du conducteur. Mais ensuite, il faut repasser dessus.
Retravailler.
Et c'est plusieurs minutes de travail par partie. Parfois un quart d'heure. Mais du coup, quand t'as 60 instruments dans l'orchestre, ça démultiplie. Voilà. Donc, il y a aussi, en général, une armée de copistes en train de faire les copies sur les deux jours et les deux nuits avant l'enregistrement. Voilà. Souvent, c'est le cas.
Vache, le boulot.
Et ensuite, il faut être sûr d'arriver bien à l'avance le jour de la session. Donc, il y a un gars qui s'appelle le libraire, qui est responsable des partitions et qui fait en sorte que toutes les partitions soient sur les pupitres avant que la session commence. Entre-temps, on a fait appel à un contracteur qui a contractualisé un orchestre, qui a choisi des instrumentistes et qui s'est mis d'accord aussi pour réserver le studio qu'on a choisi pour enregistrer. Donc là, c'est un peu les parties logistiques. Voilà. Et en même temps, il y a souvent les assistants du compositeur qui sont aussi en train de créer toutes les sessions pour les ingé-sons du studio. Pour faire en sorte que ce qu'on a dans la session logicielle, ça corresponde exactement au même numéro de mesure que ce qu'on a dans les partitions, et qu'on puisse bien dire « Ok, on prend de mesure 10 et on va jusqu'à mesure 25 », et que ça corresponde bien dans la session et dans la partition. Mmh. Et souvent, dans ces sessions-là, donc il y a des courbes de tempo, parfois il y a des changements de métrique entre les mesures, etc. Bon, il faut que tout soit aligné. Et souvent, on met aussi la version démo à l'intérieur sous forme de stems. Donc en fait, on exporte les violons tout seuls, les clarinettes toutes seules, les percus toutes seules, pour qu'on puisse entendre une partie des faux instruments si on veut. Mmh. Exemple, aujourd'hui, nous enregistrons uniquement les cordes. Parce que ça arrive souvent qu'on n'enregistre pas un orchestre entier en même temps, qu'on fasse ce qu'on appelle du striping et qu'on enregistre ce matin c'est les cordes, cet après-midi c'est les cuivres.
Okay.
Et du coup, quand j'enregistre les cordes ce matin, le réal il est présent et là d'un coup il entend que des cordes. Donc c'est important que dans la session logicielle de l'ingé son, il y ait aussi les faux cuivres qui étaient là dans la maquette, qu'on puisse les jouer en même temps pour voir si la performance des cordes marche bien avec la fausse performance des cuivres qu'on va remplacer ensuite dans l'après-midi, etc. Donc bon, du coup, voilà, il y a vraiment beaucoup de parties prenantes dans l'équipe et c'est des heures et des heures et des heures et des centaines d'heures de travail pour chaque minute de musique. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe quand il y a un gros budget et qu'il y a une grosse équipe.
Okay.
Et quand du coup, bah, on est freelance comme moi, et ben on fait tout. Voilà.
Ah ouais, donc tu peux être à la fois assistant, copiste, orchestrateur.
C'est exactement ça, je fais tout, c'est-à-dire que j'arrive, je fais ma réunion avec le réal, ensuite je fais mes propres thèmes, je délègue aucune de ma musique à personne parce que je travaille toute seule, je la programme moi-même pour faire en sorte qu'elle sonne authentique, je m'enregistre moi ou d'autres gens par-dessus, du coup je crée mes propres partitions que j'orchestre toute seule et que ensuite je copie toute seule et ensuite je prépare ma session pour l'ingé son. En général l'ingé son c'est moi parce que ça s'enregistre dans mon home studio, donc après je gère aussi l'enregistrement de la session. Ensuite je clean les takes, je fais le mix. Ah oui, parce que j'ai quand même oublié de parler des rôles qu'il y a ensuite après la session d'enregistrement. En général, après, il y a des mixeurs qui éditent les performances qui ont été faites et qui les mixent. Voilà, donc par exemple, si on a des percus qui ont joué un truc et que c'était pas exactement en rythme, eh ben, il existe des gens qui vont prendre un petit bout de fichier audio après l'autre et qui vont les recaler pile pour que ça sonne bien. Voilà, donc ça, c'est une étape qui vont enlever tous les petits bruits qu'on entend dans la session d'enregistrement. Tiens, un violoniste a frappé son archet contre le pupitre sans faire exprès pendant qu'il y avait un solo de corps, et ben il faut enlever. Oh aussi, en général, il y a plusieurs prises, donc il faut choisir quelle prise on garde. Voilà, et ensuite on mixe tout ça, et ensuite probablement qu'on fait aussi du mastering, et ensuite ça va à la grosse session finale où il y a un ingé son qui mixe la bande sonore totale avec les dialogues et les effets spéciaux, et là en général c'est terminé. Voilà. Et donc quand on est tout seul, ben, en général on fait tout seul, surtout dans les débuts. Et après, au fur et à mesure que les budgets augmentent, on arrive à commencer à déléguer certaines parties. Mmh. Un truc que j'ai pas dit et que je trouve passionnant, c'est que, en fait, quand on arrive en session d'enregistrement, il faut savoir que les instrumentistes n'ont jamais, jamais vu la partition.
Ah ouais.
Et que, en général, vu la quantité de musique qu'il y a enregistrée dans une journée, parce qu'il faut savoir que c'est plusieurs milliers de dollars par jour pour louer l'orchestre et pour payer tous les instrumentistes, donc voilà, il n'y a pas une seconde à perdre. En général, en 3 prises, la scène est bouclée. Voilà. Donc ça veut dire que, première prise, ils déchiffrent, tu leur fais des retours, deuxième prise, ils font une deuxième prise, tu leur fais des retours, troisième prise, on espère que c'est la bonne, quoi. Et plus que ça, on n'a pas le temps, voilà.
Ah ouais.
Et du coup, il y a un gros rôle de quelqu'un, souvent l'orchestrateur, parfois l'assistant du compositeur, c'était mon cas, à donner des notes, à suivre ce qui se passe dans la salle de contrôle, et à faire des retours qui soient hyper ciblés et qui soient hyper efficaces pour que les instrumentistes arrivent en 3 essais à la performance parfaite et qu'on puisse passer. Et du coup, ça a été un de mes rôles sur certains films avec Chris. Et là, je m'amusais beaucoup. Donc ça, c'était la première partie de ta question. L'autre partie de ta question, c'était sur le réseau.
Ouais, comment on se fait connaître et... En tout cas, toi, comment tu fais ? Enfin, voilà, il n'y a pas forcément de théorie, mais toi, c'est quoi que tu as mis en place ? J'ai bien compris qu'au niveau de ton master, voilà, ça t'avait déjà fait un premier réseau et que tu as dû pouvoir surfer dessus et te faire repérer aussi peut-être à travers les premières compos que tu as fait à l'école. Et aujourd'hui, en fait, comment... Enfin, voilà, c'est principalement du réseau ou aussi il y a d'autres techniques ? Voilà, explique-moi un peu comment tu procèdes.
Je dirais que le master, ça m'a développé un réseau, mais essentiellement un réseau de musiciens. La partie communication auprès des réalisateurs est beaucoup plus complexe. En fait, je dirais que c'est beaucoup... tu fais un premier projet avec quelqu'un, et s'il est content, il revient te voir 2 ans plus tard parce qu'il en a un nouveau. Et du coup, peut-être qu'il en parle à ses potes réals qui eux aussi viennent te voir. Donc c'est pas mal de bouche à oreille et de... J'essaie d'entretenir une relation avec quelqu'un, donc... Les quelques premiers projets, bah, j'ai de la chance. Jean, pour Lokia, c'était c'est un ami proche. Donc voilà, il se trouve qu'on s'est rencontrés et qu'on fait ça. Y a souvent de la chance sur les premières collaborations. Et puis ensuite, c'est à toi d'entretenir une relation, de prendre des nouvelles, de dire « Oh bah tiens, si on allait se faire une rando ou un resto !» Il faut établir un contact. T'as envie de travailler avec des gens qui s'entendent bien avec toi et qui t'aiment bien aussi pour ta personnalité. On est en train de faire de l'art, on n'est pas en train de faire... un produit très rationnel, il faut que du coup les subjectivités soient un peu accordées, quoi. Donc c'est beaucoup ça, et ensuite j'essaie d'aller à pas mal d'événements, souvent il y a des diffusions ou des avant-premières de certains films, et il y a le compositeur qui est présent, ou le réal, et après tu vas dire bonjour, ou tu discutes avec d'autres gens qui sont venus du milieu, qui comme toi étaient intéressés par ce film, et du coup bah peut-être tu tombes sur un réal qui en ce moment est en train de bosser sur un film, et qui peut-être cherche un compositeur.
Non, mais c'est hyper intéressant, et en fait je pose la question parce que je trouve qu'on parle beaucoup parfois, enfin même tu vois, genre dans les médias et tout, on parle parfois aussi de ce truc-là, ce truc qui moi me passionne du processus créatif, etc. Mais le fait de savoir que bah, les artistes, c'est aussi des entrepreneurs qui ont besoin de vivre. L'art pour l'art, c'est bien, mais mais il faut bien voilà se nourrir et pouvoir vivre de son art, et c'est pas toujours évident. Donc j'aime bien aussi parler de cet aspect un peu plus business qui fait partie de la vie des artistes. Et je trouve ça intéressant en fait de savoir comment bah toi tu t'y prends, quelle part ça a dans ton quotidien et voilà potentiellement des conseils que toi tu donnerais à des voilà à des jeunes qui voudraient se lancer dans ce métier là quoi.
Bah c'est en fait ça dépend aussi de l'emploi du temps, c'est-à-dire que là j'étais sur 2 projets en même temps, clairement la partie com elle passe un peu à la trappe pendant que je suis en train de composer toutes mes scènes et de les faire approuver et de les réviser et de les conformer, etc. Et du coup je dirais que c'est plus dans les moments de creux où je me reconcentre là-dessus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas qu'une partie com, il y a aussi une partie tech, parfois mon environnement de travail me lâche, récemment j'ai dû changer d'ordi et tout, donc il y a aussi du temps qui est passé là-dessus pour que l'outil soit fonctionnel et efficace. Et c'est sûr qu'après il y a aussi toute une partie j'ai émigré aux États-Unis, enfin je suis sur un visa d'artiste, donc du coup bah il faut faire les impôts aux États-Unis et donc il faut avoir un comptable parce que maintenant j'ai monté ma structure, donc il y a aussi toute une partie légale à gérer là-bas, donc il n'y a pas que la partie com, donc effectivement c'est loin d'être que de la création.
Okay. Et avec tout l'administratif dans un pays étranger que ça implique. Donc, j'imagine que ça ne doit pas être évident tous les jours.
Eh bien, écoute, je te propose... À la fin, j'aime bien finir par des questions un peu plus flash. Mais bon, tu n'es pas obligé que ce soit en 2 secondes non plus. Hein, mais...
Non, t'inquiète, je vais essayer de faire court.
plus sur voilà, ce que tu aimes et ce que tu recommandes par rapport à tes propres goûts artistiques. Est-ce que tu penserais à un film ou une série où la BO est vraiment sous-cotée et que toi, tu adores, par exemple?
Oui, évidemment. La question, c'est un vieux film ou un film récent?
Ce que tu veux. Ce que tu veux.
Ok, le premier qui me vient, c'est Édouard aux mains d'argent. Tim Burton, musique par Danny Elfman. C'est le film qui m'a fait aimer les musiques de films et où je me suis vraiment dit, ah tiens... Je remarque la musique et tiens, est-ce que ce serait pas un métier ça que de faire de la musique? Et la musique est absolument magnifique, mais le film aussi, j'adore beaucoup. Donc, je pense pas qu'il soit sous-coté. Je pense qu'une fois qu'on fait attention à la musique, on se rend compte que c'est une œuvre splendide. Mais en tout cas, c'est le premier film qui me vient. Voilà, s'il y a une BO à écouter, pour moi, c'est celle-là.
Super. Et d'ailleurs, bon, désolé, ça me fait penser à une autre question, mais pourquoi la musique de film? Est-ce que c'est Enfin, pourquoi la musique des films et pas... Tu m'as parlé aussi que tu avais eu des cours plus de musique de jeux vidéo. Alors peut-être que c'est très proche ou pas. Enfin, j'en sais rien. Mais voilà, pourquoi tu as fait ce choix-là?
Alors, déjà, la réponse, c'est que si je peux faire des musiques de jeux vidéo, ce sera avec plaisir. Voilà.
Ouais, ok. Donc tout est possible.
La différence principale, c'est les questions de synchronisation. C'est-à-dire que souvent, une musique de film, tu l'as fait pour qu'elle soit synchronisée à l'image. Pour le jeu vidéo, souvent, on te demande de faire plusieurs couches d'intensité de la même musique. Mm-hmm. Du coup, il faut être capable de faire plus souvent des loops et où on remarque pas trop que ça loupe sans arrêt, parce que si quelqu'un reste bloqué dans un passage pendant plus longtemps que prévu, ben, il faut que la musique elle continue à jouer, donc elle loupe. Et après, il faut qu'à n'importe quel moment, on puisse transitionner de la couche peut-être faible intensité à la couche d'un coup, tiens, il y a un ennemi que je dois combattre. Et donc là, le gamer, il est arrivé à ce stade-là, et donc là, direct, la musique, elle doit shift. Et donc toi, t'as pas créé juste une bande-son qui shift à ce moment-là, parce que sinon, en fonction de la vitesse de jeu de chacun, ça fonctionnerait pas. T'as créé 3 couches différentes et elles transitionnent dans le programme en arrière-plan en fonction de la vitesse de jeu du gamer. Voilà. Donc, tu composes moins en mode je synchronise plan par plan. En général, on te dit ok, cette scène, c'est un château et il y a des orques qui vont l'attaquer et donc faut que ce soit médiéval. Il faut une couche un peu suspense où il y a des mecs qui espionnent, qui se baladent dans le château et qui veulent pas être repérés. Et après, il faut une couche moyenne où ils vont peut-être rencontrer 2 gardes méchants. Ils vont devoir les combattre vite fait, mais bon, ils vont pas trop, on va pas trop remarquer qui sont là. Et après, il va falloir une couche full intense où là, c'est la grosse bagarre, il y a un énorme boss, c'est la guerre. Voilà. Et donc, tu fais ces 3, tu les fais dans ce mood-là et tu fais en sorte que ça transitionne bien. Mais du coup, tu as juste des lignes directrices de ce qu'on attend de toi en termes de mood global. Et parfois, t'as un peu des visuels du jeu vidéo. Mais sinon, sur les parties du jeu, ça se passe comme ça. Après, dans les jeux vidéo, il y a aussi des moments de cinématique où là, t'arrives à la fin d'un niveau et d'un coup, il y a un petit bout d'histoire avec des acteurs et où là, du coup, le truc est figé dans le temps et où donc là, tu fais une bande-son comme si tu faisais une bande-son pour un film. Mais sinon, les parties de gaming, c'est pas tout à fait les mêmes techniques.
Ouais, donc c'est vraiment une autre manière de travailler.
Je trouve que sur certains aspects, c'est plus libérateur parce que t'es pas obligé de pile, bah à ce moment le cut il est terminé, du coup tu dois changer ou ça t'impose pas un tempo, tu es plus libre de faire un peu ce que tu veux, mais ça, parfois aussi ça peut être la panne d'inspiration parce que comme t'as pas une image qui te donne un ressenti clair à un instant T, tu te dis ok, je dois écrire une loupe de 2 minutes, donc bah c'est parti pour 2 minutes et tu espères que tu vas être inspiré pendant 2 minutes de musique, quoi. Voilà.
Ok, ça marche. Ce serait quoi ta collab de rêve?
Je pense qu'un truc que j'ai pas encore fait et que j'aimerais beaucoup faire, ce serait un moment de faire de la musique et de faire une collab avec de la danse. Il y a un court-métrage que j'ai composé aussi pour Jean, où il avait une danseuse, et où du coup il m'a dit j'aimerais une musique comme ça, on va mettre la danseuse dessus. Mais ça n'a pas été vraiment... Elle a fait sa choré ensuite sur ma musique. Et je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir, d'avoir des danseurs ou une troupe de danse et de faire une musique pour eux. Mais ou peut-être ils ont déjà une partie de la chorégraphie et je m'en inspire pour faire la musique et ça devient une, vraiment une collaboration plus que l'un est fait avant l'autre. Mais oui, je trouve que quand c'est couplé à de la danse, ça peut devenir vraiment très intéressant. Et c'est très différent. Et c'est encore pas le même milieu. Mais du coup, oui, ça, c'est un axe que je trouve hyper chouette.
Ok, trop bien.
Et sinon, après, c'est difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de genres, même au sein des films et tout, que j'aime beaucoup. J'adore composer des trucs dans le style médiéval. J'adore composer des trucs un peu ethniques avec des effets de voix et des flûtes de pan basses et des petits effets joulous qui donnent l'impression qu'on est dans la jungle ou ailleurs ou dans le désert ou etc. J'aime beaucoup composer des trucs un peu plus classiques sur des drames historiques. Voilà, donc il y a plein de sujets qui me passionnent et qui sont très différents en termes de rendu sonore et en termes de type de film. Donc c'est dur de choisir, franchement, je pense que quand on a en face de soi un projet qui est inspirant, c'est toujours chouette.
Trop bien, trop trop cool. Est-ce qu'il y a une œuvre cinématographique, ou pas du tout d'ailleurs, qui t'a marqué récemment et dont tu voudrais nous parler ?
J'en ai plusieurs qui me viennent en tête, donc je vais juste balancer des titres. Il y a une série sur Netflix, il me semble, qui s'appelle L'Impératrice. C'est une série allemande.
Ah je ouais, que... j'ai vu. Trop bien.
Donc, c'est sur Sissi. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait au niveau de la musique aussi. Ils ont utilisé la voix presque comme un piano, presque comme un instrument qui fait des arpèges. Enfin, c'est vraiment très chouette. J'ai passé un très bon moment à regarder ça. J'ai beaucoup aimé Don't Worry Darling, qui était sorti l'an dernier. Je trouvais que c'était très, très bizarre. Ils sont dans cette espèce de monde où tout le monde est toujours souriant et très cliché, et tu comprends qu'il y a un truc qui est pas net et tu comprends pas très bien ce que c'est jusqu'à un certain point. Donc voilà. J'étais dans les films marquants aussi que j'ai vus. Je pense que c'était l'an dernier aussi. Il y a un truc qui s'appelait The Menu. Le menu, je pense, en français, que ça, ils ont dû traduire ça comme ça. Il y a des mecs qui sont ramenés sur une île pour un repas particulier, et là, c'est n'importe quoi sur l'île. Et ils peuvent plus s'enfuir, et... Enfin, bon, bref. Donc, je sais pas, enfin, il y a pas mal de... Enfin, il y a vraiment beaucoup de très chouettes choses qui sont sorties récemment.
Je comprends. C'est une question très difficile. Mais j'adore la poser, parce que moi, ça me donne plein d'idées de trucs à aller voir après. Ok, bah, je pense qu'on a bien fait le tour.
Bah, écoute, déjà, merci beaucoup de m'avoir reçue et d'avoir pris le temps de faire ça. Et c'est vrai que, comme je te disais, j'avais pas hésité à me lancer plus tôt parce que j'ignorais plein des métiers qui existent autour de cette industrie. Donc, si ça peut te faire découvrir à certains un peu plus les coulisses de la musique de film, ça avec grand plaisir.
Je trouve ça vraiment passionnant et franchement, enfin, la manière dont tu parles avec passion de ton métier, et, enfin, moi, ça me fascine. Vraiment, j'ai découvert plein de choses aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai fait un peu de violon quand j'étais plus jeune, et j'adore les musiques de films. Et c'est vrai que je ne soupçonnais pas, je pense, la moitié de tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Donc, je trouve ça vraiment fascinant quand on aime l'art, quand on aime la musique, quand on aime les films. Je trouve ça trop trop chouette d'avoir vu un peu toutes ces coulisses. En tout cas, je te souhaite le meilleur vraiment pour la suite de ta vie, de ta carrière.
Merci beaucoup Oriane. Avec grand plaisir et à la prochaine.
Yes, à la prochaine.
Vous venez d'écouter le premier épisode hors série d'En Aparté dédié aux coulisses des métiers du cinéma. C'est un nouveau format et je suis très preneuse de vos retours, alors n'hésitez pas à m'écrire sur mon Insta perso @Oriane-Emery ou sur l'Insta d'En Aparté en.aparté.podcast. Pour suivre Anna sur les réseaux, c'est tout simplement a2nah.tenci. Et pour découvrir son univers musical, vous pouvez écouter son dernier album intitulé Collection, dispo sur toutes les plateformes d'écoute. Perso, j'ai trop trop kiffé, alors n'hésitez pas à y jeter une petite oreille, je vous mets le lien en description. À très bientôt pour de prochains épisodes et surtout, prenez bien soin de vous.